Les parts actualités.
Bonjour et bienvenue à l'émission Les Parts Actualités. Hélène Denis avec vous en ce 15 mars 2018. Et en manchette, un revenu minimum garanti pour les handicapés d'ici 2023. Le Conseil des ministres avalise la refonte des normes du travail. Des organismes demandent à la Ville de reconduire leurs subventions. Aussi, un record de billets vendus pour les Jeux paralympiques de Pyeongchang. En entrevue, je reçois James Hyman, comédien et porte-parole de l'exposition « En camp, parle-moi d'amour » depuis 5 ans, de l'organisme Les Impatients. Et aussi, Julie Philippon, conférencière, blogueuse et auteure, porte-parole d'un service d'une heure par semaine consacré aux enfants à besoins particuliers à la bibliothèque du secteur de Saint-Janvier à Mirabel. Nouvelle tirée du journal de Québec.com, le gouvernement du Québec a franchi un pas de plus vers l'instauration d'un revenu minimum garanti destiné aux personnes ayant de graves handicaps. Ce projet de loi vise seulement les personnes inaptes au travail qui présentent des contraintes sévères à l'emploi. À terme, le programme coûtera près de 500 millions par année aux contribuables. C'est un premier revenu de base au Québec pour les personnes les plus lourdement handicapées. Ces personnes qui, en ce moment, n'ont pas accès au marché du travail aussi facilement, a expliqué François Blais, le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale. On sort carrément ces personnes-là de la logique traditionnelle de l'aide sociale, a-t-il expliqué, car ce revenu est inconditionnel. Au total, le gouvernement estime que cette mesure aidera au moins 85 000 personnes. Ainsi, le ministre Blais est convaincu d'avoir l'appui de l'opposition et des groupes communautaires. La révision des revenus se fera graduellement, afin de respecter la capacité de payer des Québécois. À l'heure actuelle, le montant maximal offert est d'environ 12 500 $. Ce n'est que d'ici 5 ans, soit en 2023, que le montant alloué atteindra le seuil de faible revenu, soit environ 18 000 $. Le programme d'admissibilité sera moins restrictif et plus simple d'approche. Dans le droit.com, le Conseil des ministres du gouvernement Couillard a avalisé hier le projet de loi de la ministre Dominique Vien sur la refonte des normes du travail. Il devrait être présenté la semaine prochaine au Salon Bleu. Le gouvernement de Philippe Couillard compte beaucoup sur lui pour son argumentaire électoral. S'il est adopté d'ici la fin de la présente session parlementaire, les salariés québécois régis par la loi sur les normes du travail bénéficieront d'une 3e semaine de vacances payées après 3 ans de service continu chez le même employeur et non plus 5. Il offrira un peu plus de congés payés ou non, selon les cas, pour des absences dues à un accident ou à une maladie. Les proches aidants seront officiellement reconnus par la loi sur les normes du travail. Cette notion dépassera les membres de la famille de la personne ayant besoin de soutien. Le projet de la ministre du Travail proposera d'inclure la notion de harcèlement sexuel dans la loi. Il doit par ailleurs mettre fin aux disparités de traitement entre de nouveaux employés, souvent plus jeunes, et les plus anciens. Ces disparités existent dans des régimes de retraite et dans des assurances collectives. L'organisme Les Impatients présente la 20e édition de l'exposition En camp, parle-moi d'amour, Montréal, à l'atrium de l'édifice Wilder, espace danse. Et j'ai le bonheur d'en parler avec le comédien porte-parole de l'événement, James Hyman. Bonjour, Monsieur Hyman.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Ça fait plaisir.
Alors, comment avez-vous connu Les Impatients, vous?
Comme beaucoup de confrères, collègues à moi qui en ont entendu parler la première fois, c'est-à-dire qu'on s'est fait solliciter pour écrire une lettre pour un livre qui, à l'époque, était publié chaque année, qui s'appelait « 1000 mots d'amour », où des gens connus, des gens moins connus, des impatients étaient invités à écrire une lettre d'amour, une lettre qui a rapport avec l'amour adressée à qui ils voulaient. Ça a donné des livres absolument étonnants et magnifiques. Et puis, ça a été mon premier contact avec eux. Puis ensuite, il y a eu des lectures publiques, des événements bénéfices au fil des ans, auxquels je disais oui à chaque fois. Et puis, jusqu'à ce qu'ils me proposent, il y a 5 ans, suite aux amitiés qu'on avait développées, aux relations qu'on avait les uns avec les autres, ils m'ont demandé d'être porte-parole il y a 5 ans maintenant.
D'accord, déjà. Alors, les impatients, il faut dire qu'ils ont pour mission de venir en aide aux personnes ayant des problèmes de santé mentale par le biais de l'expression artistique. Et pourquoi vous êtes le porte-parole de Parle-moi d'amour?
Ça, il faudrait leur demander pourquoi ils m'ont choisi.
Ils vous l'ont pas dit?
Ils trouvaient que j'en parlais...
avec
j'en
amour?
Parlais avec... Oui, avec conviction, puis avec une certaine compréhension, j'imagine, des choses pour que je sois fidèle à leur travail, à leur mission, puis à la réalité des impatients. Mais moi, j'ai accepté d'être porte-parole. On se fait offrir différentes choses au fil des ans. Puis, en l'occurrence, avec les impatients, je me sentais vraiment... c'est une des fois où je me sentais pas imposteur, en fait.
Ah oui?
De parler d'une cause ou de gens et que je me sentais une affinité personnelle immédiate. Simple, naturel, spontané, autant avec les impatients eux-mêmes quand je les croise, quand j'échange avec eux, quand ça m'arrive, qu'avec l'organisme et puis qu'avec la mission de l'organisme. Parce que, en tant que, bon, d'abord comme homme, j'ai toujours eu l'impression qu'on était, en tant qu'être humain, qu'on flirtait souvent avec les limites entre la santé et la non-santé mentale. Selon les épisodes de vie qu'on traverse, selon notre nature, etc. Puis en tant qu'acteur, en tant qu'artiste, c'est notre travail d'explorer les zones les plus troubles de la nature humaine, puis que les impatients travaillent avec des artistes. Tout ça faisait sens pour moi. Et puis j'ai toujours eu le sentiment qu'il fallait qu'il y ait des organismes comme ça qui puissent donner un lieu, un asile, un territoire de solidarité, d'amitié à ces gens qui, par ailleurs, sont trop souvent exclus ou victimes de regards, en tout cas de notre part, qui peuvent les exclure, pas parce qu'on a envie de les exclure, mais souvent parce qu'on ne sait pas comment interagir avec des gens qui sont tout simplement un peu différents.
Oui. Et l'exposition en camp, Parle-moi d'amour, parlez-nous-en un peu, ça commence
c'est
aujourd'hui?
C'est un moment important dans l'année, oui, ça commence aujourd'hui, ce soir c'est le vernissage, ça dure 2 semaines, ça va jusqu'au 28, puis c'est l'événement un peu... C'est l'événement phare des impatients depuis toujours, parce que, comme vous le savez, ces organismes communautaires-là dépendent beaucoup, beaucoup des levées de fonds qu'ils arrivent à faire pour survivre,
tout à
pour
fait.
Assurer un peu leur pérennité, parce que les subventions publiques n'ont pas arrêté de diminuer. Elles comptent pour relativement peu de choses dans le portrait général.
Malheureusement.
Des choses, oui, c'est comme ça. Il faut faire avec. Alors, c'est un événement important parce que ça permet de lever des fonds, mais au-delà de ça, c'est un événement qui est très important pour les impatients eux-mêmes. Vous savez qu'il y a à peu près 600 impatients qui fréquentent les ateliers chaque semaine. Et puis chaque année, il y a à peu près 150 œuvres d'impatients qui exposent à d'autres occasions durant l'année, mais il y en a à peu près 150 qui sont choisis pour l'exposition Parle-moi d'amour. Mm-hmm. Et pour eux, c'est un moment important parce que c'est l'occasion d'être reconnus dans leur travail. Mais au-delà du travail, comme à travers leurs œuvres, ils parlent d'eux-mêmes, c'est aussi eux qu'on reconnaît avec tout ce qu'ils sont.
Et parmi leurs œuvres, il y aura d'autres œuvres d'artistes professionnels, mais il y a vraiment un mélange. Là. Il n'y a rien qui...
Oui, parce que les impatients sont nés de la avec Lorraine Palardi, qui était galeriste avant. Donc, elle a toujours eu cette espèce de relation avec les artistes. Puis tout de suite, elle les a, il y a 20 ans, invités à collaborer. Et puis depuis, c'est assez extraordinaire parce que oui, il y a la moitié des œuvres, il y a 150, 200 œuvres qui sont des œuvres qui sont données par des artistes québécois, confirmés, professionnels, des œuvres qui sont données par des fondations, par des familles qui veillent à l'héritage de leurs ancêtres artistes connus. Donc, toutes ces œuvres-là se côtoient sur les murs, puis ça donne un... Et puis, on ne sait pas trop qui a fait quoi. C'est un peu mélangeant, Mais c'est la beauté de la chose,
oui.
parce qu'on est dans...
Tout le monde est sur le même pied d'égalité.
Tout le monde est sur le même pied.
Oui. Alors, le vernissage a lieu ce soir. C'est animé par Jean-Sébastien Girard. La soirée de clôture aura lieu le 28 mars, marquée par un encan crié, animé par Patrick Masbourian.
Entre les deux, c'est ouvert.
Oui,
entre
c'est
les deux,
ça.
C'est ouvert, évidemment, puis les gens sont invités à y aller parce que c'est vraiment une espèce... C'est pétant de vie. C'est l'occasion de se familiariser un peu avec le travail des impatients, qui en soi est méritoire, est important, essentiel. Mm-hmm. Mais en même temps, c'est aussi une espèce de balade dans des mondes intérieurs extrêmement variés et qui disent toutes sortes de choses qui échappent à la conscience, en fait, autant des impatients que la nôtre. Il y a un effet, il y a quelque chose qui se produit, qui a un impact sur nous. Moi, j'emmène mon fils qui va avoir 4 ans
pour
ça. Je trouve que les familles sont invitées, puis les gens peuvent acheter des œuvres.
Oui, on peut participer à un encan. Oui, un encan silencieux jusqu'au 28.
Silencieux. Oui, s'ils veulent, mais juste d'aller voir, juste pour faire un tour, je pense que c'est une exposition parallèle, alternative, qu'on ne pourrait pas trouver dans des musées, puis je pense que ça vaut vraiment le détour.
Ah oui, toutes les raisons sont bonnes. En plus, c'est gratuit. On peut y aller le lundi, mardi, mercredi, samedi, dimanche de 10h à 18h, jeudi, vendredi de 10h à 20h.
Oui, la soirée... ça permet de découvrir des nouveaux bâtiments
tout à
importants
fait.
De la scène culturelle montréalaise.
Oui.
D'être inauguré.
Qui est situé sur la rue de Bleury.
Bleury, grosso modo, au coin de Sainte-Catherine.
Parfait. 1435 rue de Bleury, c'est l'édifice Wilder Espace Danse. Et vous, on va pouvoir aussi vous entendre du côté du Quatsou les 6 et 7 mai. Puis aussi, vous allez lire le jeudi 22 mars le 10e coffret de 1000 mots d'amour. Vous n'allez pas lire toutes les lettres d'amour, mais vous allez être entouré de Christian
Malheureusement,
Bégin.
J'ai dû me désister parce que j'ai eu un autre engagement qui m'empêche d'être là ce soir-là.
Bon.
Mais je suis remplacé par des comédiens... exceptionnel.
Mm-hmm.
Et puis, il y avait déjà Christian Bégin, Évelyne de la Chenelière, Lise Le Poron, une impatiente qui est co-porte-parole avec moi cette année de l'événement Parle-moi d'amour.
Mm-hmm.
Il y avait déjà du beau monde qui était là ce soir-là. Alors, c'est des beaux moments,
cette
lecture-là. C'est très, très beau.
Ça doit une lecture, donc, de lettres qui aura lieu le 22 mars à compter de 17h. Ça coûte 20$. Pour avoir plus d'informations, on peut aller sur le site parle-moi-d'amour.impatient.ca.
On peut voir toutes les œuvres qui sont exposées. Si on veut faire des encans silencieux à distance, c'est possible.
C'est merveilleux. Et puis, juste pour revenir avec vos projets à vous en tant que comédien, vous allez faire des lecteurs aussi au Quatsou les 6 et 7 mai.
Oui, exact. Je vais lire avec Fanny Mallette, que j'ai invité à venir lire avec moi. Je suis en train de travailler un montage d'un roman merveilleux qui s'appelle La maladie de Sack, qui a eu un succès retentissant au Québec, de Martin Winkler.
On va vous réinviter pour nous en parler plus amplement.
Ce sera avec plaisir.
Merci, James Einen.
Bonne journée.
Au revoir, vous aussi. Bloc régional, les 4 organismes communautaires qui ont vu leurs ambitions amputées massivement par la ville de Rimouski demandent aux élus de revenir sur leurs décisions. Ils en ont fait la demande au conseil municipal lors d'une rencontre lundi soir. La Fondation Maison Marie-Élisabeth, la Fondation du Centre hospitalier régional de Rimouski, l'Association du cancer de l'Est du Québec et la Ressource d'aide aux personnes demandent le statu quo à la ville de Rimouski. Les organismes proposent dans cet intervalle de rencontrer les élus de la ville pour considérer d'autres formes de subventions qui pourraient compenser la perte de revenus, comme du prêt de matériel. Ils demandent également aux élus de réviser le budget 2018. François Gamache, le directeur général de la Fondation Maison Marie-Élisabeth, pense que la ville a plus de marge de manœuvre qu'elle ne le laisse entendre. Il y a 3 semaines, la ville de Rimouski a amputé de moitié les subventions accordé à la Fondation du Centre hospitalier régional de Rimouski et à l'Association du cancer de l'Est du Québec. La Fondation Maison Marie-Élisabeth et la Ressource d'aide aux personnes handicapées ont aussi écopé de baisses importantes. Selon les organismes, la ville de Rimouski s'est engagée à rendre une décision sur cette affaire lundi prochain. Le maire n'a pas voulu commenter la rencontre. Et maintenant, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Julie Philippon, conférencière, blogueuse et auteure, porte-parole d'un service d'une heure par semaine consacré aux enfants à besoins particuliers à la Bibliothèque de Mirabel, qui prend très bientôt son envol, samedi, donc le 17 mars. Bonjour, Madame Philippon.
Bonjour, Madame Denis.
Alors, parlez-nous de ce nouveau service, de ce nouveau projet. De quoi s'agit-il?
C'est un super beau projet, puis pour le moment, c'est aussi quelque chose d'unique au Québec.
Ah oui?
On n'est pas au courant si ça se fait même ailleurs.
Ah!
Alors, c'est vraiment très excitant comme projet.
Alors, allez-y, expliquez le projet, puis ensuite, vous nous direz d'où vous est venue cette inspiration.
Le projet, en fait, c'est d'offrir une heure par semaine de service de bibliothèque, mais réservé aux familles qui ont des enfants à besoins particuliers. Donc, on nomme pas exactement c'est quoi le besoin particulier. Ça peut être un enfant qui a un TDAH, une déficience intellectuelle, un syndrome de la Tourette, peu importe.
Mm-hmm.
Mais c'est une réalité ou en tout cas une situation qui fait que des fois, on s'isole ou c'est plus difficile de faire des trucs en société ou en public parce que nos enfants n'ont pas toujours les comportements adéquats, il y a le jugement, on dérange, tout ça. Donc, il va y avoir une heure qui va être offerte à chaque semaine avant l'horaire habituel de la bibliothèque. Et
le samedi, donc, de 9 à 10 heures.
Oui, ouais. Tout à fait. Puis à chaque semaine aussi, parce qu'il y a des initiatives qui existent déjà, mais des fois, c'est une fois par mois ou c'est...
Là, c'est un engagement à long terme.
C'est un engagement à long terme qui mobilise les élus et les dirigeants de Mirabel. C'est un projet au départ qui vient de Mme Sarah Germain, qui est la directrice du service de bibliothèque, qui m'a contactée à la fin du mois d'août pour un peu m'exposer son idée. Puis, avec tous les membres de son équipe, elle a vraiment travaillé fort. Moi, j'ai nommé aussi des partenaires avec qui j'étais. Et, certains ont répondu à l'appel. Puis, ce que ça a fait, c'est qu'il va y avoir une salle aussi qui va être réservée, qui est installée. En fait, c'est une salle de la bibliothèque qui existe.
Oui.
Mais une heure par semaine, il y a une ambiance. En fait, c'est ce qu'on veut dire, c'est que il y a tous les petits bruits d'appareils électriques dans toute la bibliothèque vont être éteints.
Ah.
Dans la salle spéciale où il n'y a pas les livres.
Ils sont chanceux.
Oui, ils sont vraiment chanceux. Il n'y aura pas d'alerte ou de choses comme ça. Alors, et dans une des salles, qui est la salle réservée, mais les gens, les familles peuvent se promener à travers toute la bibliothèque. C'est juste qu'il y a un endroit aussi où il y a des matelas qui sont au sol, les lumières vont être fermées.
Mais justement, comment va se dérouler cette heure toute spéciale? Quand ils arrivent, quoi, ils sont dans la pénombre? Comment ça fonctionne?
Quand ils arrivent à la bibliothèque comme si c'était à un autre moment donné.
Mm-hmm.
Donc, c'est le service, mettons, essentiel ou de base qu'une bibliothèque va offrir. Mais au-delà de ça, il y a aussi, c'est ça, une salle qui est réservée s'ils ont besoin mettons, d'avoir moins de stimuli sensoriels. Il va y avoir du matériel aussi qui est prêté et sorti exprès juste pour cette heure-là. Il y a aussi des outils, des livres, des jeux, du matériel qui va être prêté aux parents ou pour l'utilisation sur le coup ou il y a certaines choses qui vont pouvoir être empruntées ou louées comme si on était un utilisateur de la bibliothèque. Et, c'est pour les résidents de Mirabel, sauf que si, par exemple, vous voulez venir passer une heure à la bibliothèque pendant ce moment spécial-là, vous allez être les bienvenus.
Oui.
Mais les gens vont aussi pouvoir s'inscrire, ceux qui sont non-résidents, si jamais ils veulent aussi pouvoir emprunter ou louer des livres.
Alors, cette heure-là, vraiment, va permettre aux enfants à besoins particuliers de jouer à toutes sortes de jeux, de participer à des lectures. Il y a des livres didactiques?
C'est de leur permettre d'être des enfants dans une bibliothèque, comme les autres enfants, mais malgré peut-être leur défis ou leur handicap ou leur particularité. Vous savez, des fois, il y a des enfants qui ont des tics verbaux. Il y en a d'autres qui sont non-verbaux. Donc, quand ils se promènent dans la bibliothèque, ils peuvent être aussi bruyants ou gauches.
Mm-hmm.
Fait que ça va leur permettre d'être en contact avec ce lieu merveilleux qui est la bibliothèque où les livres sont accessibles à tous. Mais dans un environnement ou un encadrement où il n'y aura pas de jugement, où les parents vont pas nécessairement se sentir aussi mal ou dérangeant.
Incompris.
Puis, malheureusement, des fois, on se juge nous-mêmes. Hein. C'est pas tout le temps les autres qui envoient une mauvaise image.
On est mal à l'aise, oui.
Mais on est mal à l'aise. Puis d'autres fois aussi, c'est qu'on entend des soupirs, on voit des gros yeux. Puis comme parents, on fait juste notre possible. Puis ce qui est intéressant, je trouve aussi, qu'il faut mentionner, c'est que pour les parents, Mais ça va être un moment aussi où ils vont pouvoir rencontrer d'autres parents qui vivent peut-être quelque chose qui ressemble à leur réalité.
Oui, ils vont pouvoir échanger avec des gens qui vivent les mêmes expériences ou en tout cas des expériences similaires. Ça peut aider, ça peut faire du bien. Et puis, Mme Philippon, et quand on doit se présenter si on est intéressé? Donc, le samedi, ça commence à 9h, mais comment...
Ça commence à 9h, c'est à la Bibliothèque centrale de Mirabel qui est à Saint-Janvier. Dans le complexe Val d'Espoir.
Mm-hmm. Et faut s'inscrire?
Il ne faut pas s'inscrire si on veut seulement participer. On se présente sur place. Et samedi qui vient, ça va être la première fois. Fait qu'on ne sait pas comment ça va être reçu par les gens, si les gens vont être aussi peut-être un peu gênés ou intimidés.
Oui, oui. Je vous souhaite bonne chance. Puis il me reste quelques secondes juste pour aussi ajouter que samedi, vous allez participer aussi au Salon Ressources Famille qui se tient à Repentigny, un gros samedi pour vous.
Oui,
vous allez y faire? Qu'est-ce que c'est que ce salon?
Moi, je suis invitée comme conférencière pour aller parler aux parents. Puis le sujet de la conférence, c'est guide de survie pour les parents. Mm-hmm. Que ce soit avec des besoins particuliers ou pas, c'est pas toujours facile d'être parent. Puis c'est un salon qui offre des ressources. C'est fun parce que, c'est à Repentigny, donc on n'est pas obligé d'aller nécessairement à Montréal. Tout ça qui va avoir... Il y a 3 conférences qui sont gratuites. Il va avoir des exposants qui ont tous un lien avec la famille, les enfants, l'éducation.
Une première? C'est un premier salon?
Écoutez, là, je suis un petit peu mal à l'aise.
C'est pas grave.
Je ne sais pas si c'est la première fois.
De toute façon.
Que c'est ma première participation. Puis, je suis contente parce que le matin, je vais aller à la bibliothèque. L'après-midi, je vais aller au salon. Mais c'est des choses pour aider les parents. Puis, des choses qui sont en région un peu aussi, si on peut dire.
Mm-hmm.
Puis, si ça se fait en région, ça veut dire que ça pourrait se faire partout. Ça devrait être accessible à tout le monde.
Oui.
Il faut le demander aussi peut-être
oui.
À les gens, le proposer. Puis là, on a des exemples que c'est possible en se mobilisant. Alors, j'ai comme des frissons pendant que je vous parle. Vous l'entendez peut-être dans ma voix.
Oui, j'entends la passion. Alors, Julie Philippon, je vous dis un grand merci pour cette entrevue. Bon samedi aussi à la Bibliothèque de Mirabel d'abord et puis ensuite au Salon Ressources Famille de Repentigny. Merci et puis bonne journée.
Merci beaucoup. Au revoir.
Bloc national, les organisateurs des Jeux paralympiques ont annoncé mardi que plus de 320 000 billets ont trouvé preneur à Pyeongchang. Il s'agit d'un nouveau record pour des Jeux d'hiver. Le précédent record était de 316 200 et avait été établi il y a 4 ans à Sochi. Ces Jeux brisent plus d'un record avec plus d'athlètes de pays, de médias et de diffuseurs. C'est super que le record des billets ait été battu si rapidement. J'espère maintenant que le record sera plus imposant avec les 6 prochaines journées de compétition, a expliqué le président du comité paralympique, Andrew Parsons. Même s'il reste près d'une semaine aux Jeux, 90 % des billets sont déjà vendus, a-t-il précisé. Les assistances des Jeux paralympiques ont connu une vaste progression en 12 ans, comme le démontrent les quelques 162 000 billets vendus aux Jeux de Turin tenus en 2006. La cérémonie d'ouverture à Pyeongchang a attiré 21 000 personnes, ce qui représente 72,5 % des places disponibles. La première fin de semaine de compétition a aussi été fort courue, alors que plus de 105 000 spectateurs ont assisté aux différentes compétitions. Le podium des événements qui ont réuni le plus grand nombre d'amateurs est dominé par la session matinale de curling en fauteuil roulant qui a eu lieu le 12 mars, dont l'affrontement vedette était le match opposant le Canada à la Corée du Sud. Sur le site adiac-congo.com, d'après un communiqué de presse de l'Organisation mondiale de la santé publié le 3 mars à l'occasion de la Journée internationale de l'audition, près d'une personne sur 10 sera atteinte de la déficience selon les prévisions d'ici à 2050. La Journée mondiale a été célébrée sur le thème « Déficience auditive, soyons à l'écoute de l'avenir, préparons-nous ». En effet, plus de 466 millions de personnes souffrent de cette anomalie, poursuit le communiqué. L'augmentation de la déficience auditive dans le monde est due à plusieurs facteurs. La croissance mondiale et la proportion accrue de la population de personnes âgées, l'exposition professionnelle et récréative au bruit excessif, les médicaments auto-toxiques ainsi que les infections de l'oreille et autres infections comme les oreillons et la rougeole. Pour éviter la déficience auditive, rappelle-t-il, il faut un diagnostic précoce et des soins spécialisés, veiller à l'accès et à l'utilisation des appareils auditifs et au recours aux services de communication et de réadaptation. Notons que la déficience auditive est l'un des troubles qui affecte une grande partie de la population. Elle a un impact, un grand impact sur la vie et la santé des personnes. En rafale, message du regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal. Des places disponibles pour leur formation d'avril, gestion de situations particulières et éducation populaire autonome. Il reste encore des places pour nos formations d'avril. Au menu, 11 avril, rôle et responsabilité des membres d'un CA, gestion de situations particulières. 18 avril, éducation populaire autonome, une pratique de transformation sociale. Pour vous inscrire, écrivez aux inscriptions au pluriel, @riocm.ca et c'est gratuit pour les membres, 20 $ par personne pour les non-membres. Dans cybersoleil.com, les sportifs pourront conjuguer l'utile et l'agréable le samedi 9 juin au Parc régional des îles de Saint-Timothée. La 9e édition du défi Phrase s'y déroulera. La journée proposant des épreuves de course à pied et des parcours de marche constitue une source de financement pour la Fondation des ressources alternatives du Sud-Ouest, FRAS ou Phrase. Cet organisme est voué aux familles composant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Les bénéfices serviront à soutenir la maison de répit Jean Reid à Reid à Salaberry de Valleyfield. Maison concrétisée par la phrase grâce aux retombées de son défi annuel. Nathalie Tremblay, directrice générale de la Caisse des Jardins de Châteauguay, est la présidente d'honneur de la 9e édition. Les intéressés peuvent s'inscrire en solo ou en équipe, faire un don ou devenir bénévole sur le site de la course en se rendant sur le site internet raceroster.com, raceroster, R-O-S-T-E-R.com. Ici Hélène Denis, un grand merci d'avoir été à l'écoute des Par Actualité de ce 15 mars 2018. Un grand merci à mes invités aussi, James Hyman, comédien porte-parole de l'exposition « En camp, parle-moi d'amour » depuis 5 ans, dont le vernissage a lieu aujourd'hui de l'organisme Les Impatients. Et Julie Philippon, qui est porte-parole d'un service d'une heure par semaine consacré aux enfants à besoins particuliers à la bibliothèque du secteur de Saint-Janvier à Mirabel. Merci à mon équipe Anne-Laure Janson à la recherche et Maurice Bolduc à la mise en onde. Bon week-end, on se retrouve lundi.